With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les Trois Bleus de Joan Miró. Ces trois très grands tableaux de Miró sont emblématiques d'une période bien particulière de la vie de l'artiste quand, la soixantaine venue, Miró a enfin les moyens de se faire construire l'atelier de ses rêves. Il se le fait construire à Majorque, dans sa Catalogne natale, ce qui lui permettra d'ailleurs de réaliser aussi des céramiques et des sculptures monumentales qui vont marquer ses dernières années de création. Il faut se souvenir que Joan Miró a toujours été plutôt à l'étroit dans sa vie matérielle, notamment rue Blomé à Paris, où il arrive en 1921. Et pendant toute cette décennie des années 20, il va inventer dans la capitale française ce langage pictural qualifié parfois d'enfantin pour lequel il est connu dans le monde entier. C'est d'ailleurs un vocabulaire qu'il a forgé tard dans sa vie, presque à 30 ans, à force de recherches acharnées pour trouver enfin sa propre voie en peinture. Il avait commencé par des toiles d'ailleurs remarquables, qualifiées souvent de détaillistes. Il a dû s'en détacher. À Paris, sa famille ne lui donne pas d'argent. Il raconte comment souvent il peint dans un état d'hallucination provoqué par la faim, le manque de nourriture pratiquement. Il partage aussi l'atelier d'un autre peintre à cette époque. Ça ne le dérange pas vraiment, il est très ordonné. Et d'ailleurs, bien plus tard, dans l'immense espace où il a créé les grands bleus qu'on voit ici, eh bien Miró continue à ranger méticuleusement ses pinceaux, ses brosses, ses tubes de couleurs, à travailler aussi à des horaires très précis. Quand ses amis évoquent Joan Miró, ils parlent toujours de sa très grande gentillesse, de son amour de la poésie, de son attachement à la Catalogne, de sa fascination pour les objets modestes, les objets du quotidien, et de ses yeux d'un bleu intense. Ce bleu qui reste la couleur emblématique du peintre, comme le raconte Sophie Forestier, conférencière au Centre Pompidou.
Eh bien, le bleu, c'est d'abord, il reprend, quand il fait ses peintures, il reprend ce travail qu'il a fait dans les années 20-25, et qui sont ses peintures avec des fonds bleus, où c'est des fonds très passés assez liquides et passés à l'éponge, et sur lesquels il y a des écritures ou des traces qui rythment le fond.
On voit une petite toile juste derrière nous, quand on sort à gauche, il y a justement un tableau bleu de Miró des années 20.
Voilà, la sieste qui est dans le musée. Et puis ensuite, il reprend ça lorsqu'il a cet atelier plus grand. Et c'est vrai qu'avec le bleu, il choisit une couleur qui a une symbolique assez universelle, puisque ça renvoie au ciel, à l'océan, à l'infini. Il y a une dimension spirituelle et cosmique dans toutes les cultures. Donc le bleu, c'est aussi, pour un Catalan comme lui, c'est aussi les maisons bleues qui étaient en Catalogne peintes en bleu. Et les maisons étaient, c'est une manière de présenter la maison comme un lieu où se vit l'idéal et le rêve. D'ailleurs, pour Miró, il va le dire dans un de ses tableaux, le bleu, c'est la couleur de ses rêves.
Et puis, juste, vous avez parlé de l'atelier. Quel rapport entre l'étoile et l'atelier?
Cet atelier, pour lui, c'est un atelier dont il rêve. Et c'est la possibilité pour lui de faire des tableaux plus grands que les tableaux de Chevalet, mais très grands. Il a cette envie depuis longtemps de parler à tous, de faire une peinture universelle et ouverte à tous. Donc l'espace, la grandeur de la toile, c'est une manière de parler au plus grand nombre. Et la peinture américaine, voire la peinture américaine des années 50, va lui donner l'envie de s'y mettre à son tour.
Alors, vous vouliez aussi parler de la méditation.
Bon, oui.
Entrer ici, oui. Forcément, ça fait penser à un univers presque asiatique, enfin de méditation asiatique.
Oui. Oui. D'ailleurs, il y a une préparation pour eux. Il dit qu'il s'est préparé à faire ces trois tableaux, comme les archers japonais, et où l'inspiration sont très importants.
Enfin, le souffle.
Le souffle. Il y a une dimension physique dans cette préparation, probablement. Physiquement, il a ouvert ses poumons. longuement et expirer, inspirer. Et puis ensuite, il va commencer d'abord par travailler sur des tout petits papiers, pas plus grands que 10 cm, des petits papiers où il jette un croquis au stylo à billes et au crayon de couleur.
Pour préparer ces trois tableaux.
Préparer ces trois tableaux, les trois, un, deux, trois. Et puis ces petits bouts de papier, il les garde sur lui, il les met dans sa poche, ça devient trop froissé au bout d'un moment. Et puis tout d'un coup, il va se mettre à peindre. C'est un petit peu ces petits bouts de papier comme quelque chose de très intime qu'il veut garder que pour lui et que tout d'un coup, il va révéler. Et puis, il se met à peindre le fond bleu, mais pas comme un peintre en bâtiment, dit-il. Il dit que parfaire le fond le mettait en état de continuer le reste. C'est donc poser le bleu, c'est continuer cette méditation et après, il va se mettre à l'écriture. Cette écriture, ce sont ces formes noires, rouges, ces traits. Et c'est étonnant parce qu'il nous parle du fond, mais il ne nous parle pas de cette écriture.
Et dans quoi ? Dans ses récits ?
Dans ses correspondances ? Dans ses récits, il nous parle de la fabrication du bleu. Il nous dit que ce n'est pas comme un peintre en bâtiment. Mais il ne nous dit pas le reste, il s'arrête. Et donc, on ne sait pas très bien comment il a fait le reste. Mais on le sent quand même, parce que c'est comme une calligraphie. Il n'a qu'une chance, il le fait en une fois. Il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de rature, il le fait d'un trait. Et finalement, on ne sait pas si on a affaire à des fragments, à des points de vue de près ou de loin, à des formes cosmiques, ou voilà, des planètes, ou des... On ne sait pas si on est dans l'eau, dans le ciel même, hein, on peut se demander. Il y a presque quelque chose d'aquatique. Et il s'est jeté dans le vide. On sent qu'il nous livre ça presque d'un seul geste et avec une seule chance. Finalement, il y a beaucoup d'audace et beaucoup de joie aussi. Je trouve qu'il nous invite... Il y a quelque chose de joyeux dans ces trois grands tableaux.
Miro demeure inclassable. Il s'est toujours démarqué un peu des courants picturaux. Il a signé le manifeste des surréalistes, mais ensuite il a pris une certaine distance avec le mouvement. Il aimait par-dessus tout, en fait, chercher, expérimenter. Il partait souvent, disait-il, d'un minuscule défaut, d'une toile, d'un trait peint au hasard même, pour laisser ensuite vagabonder son imagination. Mais il ne se laissait jamais aller à la facilité. Les trois bleus qu'on voit ici, qui pourraient apparaître comme une sorte d'achèvement, ouvre en vérité une période encore différente pour un artiste qui, pendant plus de 60 ans, aura su en permanence se renouveler.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.